voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. Ce soir, Ramsès II et Néfertari.
Madame Noblecourt, l'un des épisodes les plus piquants de votre vie de conservatrice a été la venue de la momie de Ramsès II en 1976. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu cette histoire pleine d'anecdotes amusantes?
C'est très amusant parce que je n'aurais jamais pu imaginer qu'il m'aurait été possible de faire venir la momie de Ramsès II en France. C'est une idée folle. On est encore une idée à Madame Noblecourt, ça c'est sûr. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc je n'aurais pas eu cette idée. Voyez-vous, je décline la maternité de la chose. Mais c'est venu tout seul, comme toujours. Dans ce remue-ménage que l'égyptologie a connu pendant les dernières 40 et 45 années, on a beaucoup parlé d'égyptologie. On a beaucoup parlé d'objets égyptiens. Et il est évident que jamais on a autant parlé de momies et d'antiquités égyptiennes que depuis ces 45 dernières années. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que la momie de Ramsès serait venue à Paris? Nous n'avions aucune raison de choisir une momie, quelle qu'elle soit, parmi les dépouilles des pharaons, et surtout de choisir la momie de Ramsès II et de la faire venir à Paris. Nous ne sommes pas des nécrophages, et c'est pas la chose qu'il faudrait faire. Mais les circonstances étaient tout autres. La science fait des progrès, quelquefois. Et on a prétendu, à juste titre, que nous avions tout de même des chimistes qui sont capables d'étudier autre chose que des compositions colorées pour des tissus anciens, et que d'étudier une momie, c'est, mon Dieu, un cheval de bataille que pouvait mettre en avant le musée de l'homme, où se trouvaient déjà des momies, mais des momies inca et des momies sud-américaines. Pourquoi y a-t-il eu la momie de Ramsès II à Paris? Ça, alors là, c'est une autre histoire. Je dois même faire un effort pour me rappeler la raison pour laquelle la momie est venue. Est-ce que vous vous souvenez?
Oui, je crois qu'elle était dans un état déplorable et qu'il n'y avait qu'en France que l'on possédait les moyens de traiter cette momie au rayon X des affections cryptogamiques dont elle était affectée.
C'est vrai. Lorsque nos spécialistes, et nous avons eu pas mal de spécialistes, dont le doyen Balou, qui était l'administrateur du musée de l'homme, est passé au musée du Caire, il s'est rendu compte qu'à côté des momies royales, et surtout des momies qui contenaient Ramsès II et Séti Ier, une odeur nauséabonde se répandait à travers les vitres des vitrines. Et il en a alerté le directeur du musée du Caire, qui était un très brave homme, un grand type qui s'appelait Henri Riad, un copte très respectueux des antiquités égyptiennes, qui était peut-être pas le plus grand savant en égyptologie, mais qui était un homme très digne et qui faisait bien son métier. Alors il est allé le voir et il lui a dit « Les momies ne sentent pas bon et surtout la momie de Ramsès II ». Alors Henri Riad a noté la chose et il a commencé à se demander ce qu'il fallait faire. Jusqu'au jour où, étant en rapport avec des savants français de passage et même qui restaient sur place, il s'est rendu compte qu'il devait appeler à l'aide pour faire quelque chose afin de sauver tout de même des témoins d'une histoire extraordinaire et qui sont conservés, enfin... Les momies royales égyptiennes qui sont au musée du Caire sont remarquablement conservées, quoique, mon Dieu, passées à travers des difficultés extraordinaires depuis 4000 ans. Depuis 4000 ans. Et voilà comment a commencé l'histoire. La momie de Ramsès II a été mise dans les mains du doyen Balou. C'était du temps où le ministère de la culture, pas de la culture, non,
l'éducation nationale. De Madame Sonnier-Séité, vous voulez parler de Madame
Sonnier-Séité. Oui, était en poste. Alors, elle a consenti à tout ce que les savants français lui demandaient, dont leur désir de soigner cette momie qui sentait mauvais, ou du moins qui ne sentait pas bon la momie. Et c'est comme ça que la momie est arrivée. Je me suis rendu à droite et à gauche jusqu'à ce que j'ai trouvé ceux qui voulaient bien prendre la responsabilité d'essayer de voir ce qu'on allait faire. Et quand elle est arrivée avec tous les honneurs auxquels elle méritait, elle est venue dans un avion militaire avec cocarde tricolore. Elle a eu les saluts militaires à l'aérodrome d'Orly. Et on l'a mis au Musée de l'Homme, et c'est là où elle a été confiée à des savants, au Musée de l'Homme. Ensuite, elle est partie à Grenoble, où on a fait analyser certaines choses. On a analysé beaucoup de choses sur la momie, sans aucun prélèvement du reste. Ça a été très bien fait. Et puis, quand la momie a été, dans tous les sens, étudiée, eh bien, elle a été rapatriée dans son pays d'origine, sous un drap funéraire, je ne peux pas dire funèbre, funéraire, que j'ai fait faire au Louvre, qui était un drap de velours, de soie, bleu roi, brodé à la tête du papyrus d'Égypte, la plante d'Égypte épanouie, et de l'autre côté, le lys d'Égypte. C'était vraiment très beau. J'ai heureusement les photos. Car quand on a renvoyé la momie en Égypte sous son double ou triple cercueil, recouvert de ce dé magnifique, sa présence n'a pas duré longtemps dans les caves du musée du Caire, où certains gardiens s'en sont servis comme de draps de lit. Ils ont passé des nuits adorables, paraît-il. Vous voyez ça? Je me suis rendu dans les sous-sols du musée du Caire, et un jour, j'ai vu une espèce de... C'était la fin de la journée, j'étais avec le conservateur en chef. J'ai vu un diable qui se dressait. J'ai dit, voilà le fantôme de Ramsès. Pas du tout. C'était un gardien de nuit qui était roulé dans le drap de Ramsès. Il ronflait, il était heureux. Et je l'ai réveillé. Enfin, voilà. La fin du drap de Ramsès.
Alors, cette momie de Ramsès II, elle a été examinée. Est-ce que son examen n'a pas été pour vous l'occasion de faire une découverte passionnante sur la personnalité de Ramsès II en examinant la couleur de ses cheveux?
Ça, c'est très amusant. C'est ce qu'on appelle la découverte par ricochet. C'est tout à fait ça. Eh bien, cette momie, à un moment donné, comme elle était au Musée de l'Homme, elle devait passer devant certaines analyses, et j'ai demandé de quelle de quelle espèce de poil aggloméré et agglutiné étaient formés les cheveux de Ramsès. Alors, plusieurs savants se sont penchés là-dessus, dont des chimistes de Lyon qui ont été remarquables. Et on s'est aperçu que les cheveux de Ramsès II étaient roux. C'est invraisemblable de penser qu'un Égyptien a des cheveux roux. Mais quand on pousse le problème un peu plus loin, ce n'est pas étonnant. Parce que Ramsès II est d'une famille de l'Est du Delta. Donc, mélangé avec des familles nobles orientales. Et il est évident que les membres de la famille de Ramsès II ont du sang sémite. Et Ramsès avait des cheveux en partie rouquin, parce qu'il avait du sang sémite. Comme certains Égyptiens de l'ouest du Delta. Voilà ce que nous a révélé l'étude des cheveux de Ramsès. Ramsès était rouquin. C'est assez amusant de penser ça.
Mais est-ce que dans l'Égypte ancienne, il n'y avait pas une prévention contre les rouquins, justement ?
Voilà la question qu'il fallait poser. Il est évident qu'un rouquin était très mal vu en Égypte. Très mal vu. Parce que les cheveux rouges, ce sont des cheveux qui rappellent l'origine d'un dieu assez abhorré, Seth, le Satan égyptien, l'ennemi d'Osiris, qui a voulu tuer Osiris. Et c'était un rouquin, Seth. Donc un Sethien, c'est-à-dire un fervent de la famille de ceux qui avaient tué le grand dieu égyptien des agraires, Osiris. C'était donc quelque chose d'extraordinaire.
Ramsès II est considéré comme l'un des plus grands pharaons d'Égypte. Est-ce que cela vous semble juste ?
Vous, professeur Vernus, qui connaissez si bien l'histoire égyptienne, croyez-vous qu'on puisse dire que Ramsès est le plus grand pharaon ?
Mais non, justement, je vous pose la question.
Pose la question aussi.
Ça dépend des critères selon lesquels on juge un pharaon.
Oui.
Disons qu'il a au moins un mérite.
Glorieux, oui.
C'est celui d'avoir fait graver le plus grand nombre de monuments. Ça, je crois qu'on ne peut pas le lui disputer.
Il n'y a aucun doute.
Et alors ?
Oui. Parce que la bataille de Kadesh, dans le fond, doit être très inférieure à la bataille de Megiddo que Thoutmose III, son ancêtre presque immédiat, avait livré.
Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce que c'est que la bataille de Kadesh et comment il l'a fait connaître ?
Ramsès a été, pour son époque, si je puis employer une expression très moderne, le roi de la pub. Il a utilisé la publicité comme personne au monde n'aurait pu le faire. N'importe quel élément était pris en charge par lui pour en faire un élément de gloire pour son Ramsès. Ainsi donc, chaque fois que quelque chose survenait en bien ou en mal dans le pays, c'était en l'honneur de Ramsès et c'était un omen, c'est-à-dire un présage très important pour le règne de ce roi, n'est-ce pas ?
Absolument. Bien, la bataille de Kadesh, j'aimerais que vous nous la racontiez justement, parce qu'il faut que les auditeurs se rendent compte exactement de la réalité, d'une part, et d'autre part, de la déformation que Ramsès II lui a fait subir par désir de communication. Vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Désir de communication.
Vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Kadesh est une ville entourée par un fleuve qui s'appelle l'Oronte, donc dans le Proche-Orient. Et Ramsès, qui a été contraint de mener la guerre au-delà de ses frontières, a été obligé de quitter à un moment donné l'Égypte pour aller en direction du Proche-Orient et poursuivre les armées hittites qui étaient rassemblées dans une citadelle que les Égyptiens, un siècle avant, avaient érigée, la citadelle de Kadesh, entourée par un bras du fleuve que l'on appelle l'Oronte, O-R-O-N-T-E. Voilà la base. Alors, la bataille de Kadesh est une bataille célèbre parce que elle s'est déroulée sous Ramsès II. C'était à l'aube, une aube très claire et très pâle, et les envoyés hittites, c'est dans le fond les futurs indo-européens qui vivaient en Anatolie, les envoyés hittites qui avaient été faits prisonniers par les gardiens égyptiens, mais les Hittites s'étaient fait faire prisonniers pour donner des mauvais renseignements. Ils ont raconté que les soldats hittites qui allaient attaquer les Égyptiens étaient, je crois, très près. Et qu'il fallait se préparer à une rencontre extrêmement meurtrière. C'est comme ça que ça a dû commencer, la bataille. Alors, les Égyptiens se sont armés jusqu'aux dents. La bataille a commencé à l'aube. Après avoir fait la prière à Amon, il s'adresse à ses chevaux. Et il leur lance une harangue en leur demandant de le sauver. Lui, le glorieux pharaon, qui vénérait naturellement les chevaux royaux, demande l'aide de ses chevaux pour être sauvé des Hittites, ce qui s'est passé. C'est du reste pour ça qu'il a fait faire cette petite bague dont nous avons parlé. Alors, il s'est fait sauver grâce à la vitesse de ses chevaux qui, entre nous, ont fichu le camp. Hein ? C'est bien ça. Ils ont trouvé le moyen de se faufiler.
Donc, c'est un exemple parfait de propagande ou de déformation.
Bah oui, mais on a toujours dit que Ramsès était le roi de la pub. Dès qu'il peut trouver un événement, n'importe lequel, il le tourne à son avantage. Et il y arrive.
Voix nue, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt.
Est-ce que vous voulez nous parler un peu des monuments de Ramsès II, justement? Laissons la bataille de Kadesh, mais où a-t-il bâti presque partout? Mais quels sont ceux que vous connaissez le mieux? Abou Simbel, le Ramesséum, vous pouvez nous en parler un peu de son activité de bâtisseur?
Oui, enfin, pour les monuments qui se rapportent à la bataille de Kadesh et qui portent l'image de la bataille sur leur monde, c'est la plupart des monuments qui ont été érigés par Ramsès, surtout en Haute-Égypte. Or, Ramsès a érigé énormément de temples jubilaires, c'est-à-dire de temples dans lesquels on célébrait les fêtes de la royauté égyptienne qui se répétaient très souvent. C'était pas des temples funéraires. Ils sont devenus funéraires dans la suite, en souvenir du roi. Mais ils étaient jubilaires du temps du roi, c'est-à-dire que chaque fois qu'un jubilé, c'est-à-dire un anniversaire, et il y en avait beaucoup, il en fabriquait des anniversaires. On fêtait le jubilé de Ramsès. Parce que le premier jubilé de Ramsès, paraît-il, qui aurait commencé en l'an 25, a peut-être commencé en l'an 25, mais tous les ans, il y avait déjà la répétition d'un couronnement. Alors vous voyez comment il se faisait couronner une fois, et que chaque année, on célébrait son couronnement. C'était chaque fois le jubilé qui était confondu avec la fête du roi. Voilà les jubilés de Ramsès qui étaient si nombreux. Et alors, ces jubilés étaient marqués sur les murs de tous ces temples. Et comme Ramsès a œuvré beaucoup dans le Delta, parce que au Nouvel Empire, à la 19e dynastie, vers 1250, sa capitale n'était plus Thèbes. C'était dans le Delta, dans la ville la plus proche de la frontière avec l'Orient, avec les voisins, parce qu'il fallait être à côté de ces garnisons. Il y avait une ville de garnison extraordinaire à côté, avec une réserve de chevaux de guerre formidable, parce qu'on était très proche de l'ennemi. Donc, les fondations de Ramsès, les fondations guerrières de Ramsès, dans le delta étaient nombreuses. Et il y en avait, comme je vous l'ai dit, tout autour de sa capitale, qui s'appelait Père Ramsès, ce que les textes appellent Pi Ramsès, c'est la même chose.
Vous avez fouillé, je crois, dans l'un des grands temples de Ramsès II, le Ramesséum.
Oui. Oui, j'ai fouillé. Mais je n'ai pas fouillé espérant retrouver des monuments historiques de Ramsès, parce qu'ils étaient presque tous apparus sur le mur. Tous les murs du Ramesséum, qui dans le fond sont le témoin vivant d'une partie de l'histoire de Ramsès, sont encore en place. Il y a la répétition, répétée si je puis dire, de la bataille de Kadesh, non seulement à l'extérieur sur des murs secondaires, mais à l'intérieur même de la grande première salle où vous avez toute la représentation de la bataille de Kadesh. Mais véritablement, c'est une carte géographique. Depuis le début jusqu'à la fin de la bataille, nous avons le spectacle de Kadesh, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé autour de la ville de Kadesh, pas très loin du fleuve Oronte, et de tous les événements, petits et grands, qui se sont passés autour et qui sont relatés par, non pas un poète, comme on l'a dit, qui aurait écrit un texte que l'on appelle le poème de Pentaour, ça c'est de la blague, mais par un écrivain à qui Ramsès a demandé de noter les éléments, les événements essentiels de la bataille.
Une autre de vos découvertes, je crois, concerne la mère de Ramsès II.
Celle-là, la mère de Ramsès II, que je connaissais par des petites statuettes funéraires que je chassais, si je puis dire, chez les antiquaires, parce que quelquefois des tombeaux historiques sont pillés, des petits éléments arrivent jusqu'en Europe chez les antiquaires. J'avais trouvé quelques détails représentant des statuettes funéraires plus ou moins cassées, comme des momies, des petites momies, avec le nom mère royale Toui. À un moment donné, je ne comprenais pas, jusqu'au jour où j'ai compris que la mère royale, c'était la mère de Ramsès II. Et il y avait donc dans le commerce et chez les antiquaires de Haute-Égypte, des événements, des éléments qui me paraissaient être provenir d'un monument de Ramsès II inconnu, puisque ça ressortait de temps en temps chez les antiquaires. Alors naturellement, j'ai fait une enquête, j'ai attendu beaucoup, enfin j'ai trouvé, je crois avoir trouvé, ces éléments venaient de la tombe de la mère de Ramsès II, qui n'avait pas été découverte, qui avait été pillée dans l'Antiquité, complètement pillée, en laissant quelques œillets, mais non historiée par les égyptologues. Et c'est par hasard que je l'ai retrouvée dans la vallée des Reines, avec son nom, mère royale Toui. Elle s'appelait Toui, ou Mout Toui, parce que Mout veut dire la mère, donc elle était la mère Toui, c'était son nom.
Et il y avait, je crois, une jolie statue.
Alors, bah oui, attendez voir. C'est celle que vous voyez sur la couverture. C'est Mout Toui, c'est la mère de Ramsès.
Alors, c'est dans votre livre « Le secret des découvertes », sur la page de couverture, vous avez une représentation de Mout Toui.
Et c'est une tête que j'ai trouvée tout près de l'entrée de la tombe de Mout Toui qu'on ne connaissait pas, et que j'ai retrouvé dans la vallée des Reines. La mère de Ramsès était bien enterrée dans ce que nous appelons la vallée des Reines. Et c'était une tombe qui était contre une marche de la descente vers sa tombe.
Et donc,
qui a été pillé du reste.
Et est-ce que, pour conclure, vous avez parlé de la mère? Maintenant, est-ce que vous voulez nous parler, je dirais pas de l'épouse, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais de la plus belle des épouses?
La plus belle de toutes, du reste. Elle a été appelée, probablement par Ramsès,
Nefertari, ça veut dire la plus belle.
Nefertari, celle à qui la beauté appartient, enfin, bon. Donc, elle devait être formidablement belle. Parce que quand les Égyptiens se mettaient elle belle, elle l'était. Et une Thébaine, avec ses cheveux de jais, mais pas des cheveux crépus, des cheveux d'ambre, mais noirs, avec des reflets de corbeau, d'ailes de corbeau, des yeux à embraser tout Thèbes à la fois, et certainement des voix très douces, sauf lorsqu'elles attrapaient leur enfant. Ça devait hurler dans tous les coins, dans tous les couloirs du palais. L'existence de Ramsès II, depuis son enfance jusqu'à sa disparition, a dû être quelque chose d'extraordinaire. C'était un petit prince, il a dû être choyé par ses parents, penser c'était le fils de son père. Un petit garçon, ça compte. Il devait être beau comme le jour. Donc, un petit prince beau comme le jour, fils de Séti Ier, ça devait être le trésor unique au monde et vénéré à la cour d'abord et dans toute l'Égypte ensuite. Voilà le début de la carrière de Ramsès. Il a été marié certainement très jeune avec une petite princesse dont on ignore tout, sauf qu'elle semble avoir été fort belle. Est-ce que les peintres et les sculpteurs égyptiens n'ont pas un peu ajouté à la beauté naturelle de cette princesse des charmes qu'elle n'avait pas, ça? Mais enfin, Ramsès a eu une mère qui s'appelait Toui. S'appelait-elle Mout Toui? Je ne sais pas. On a trouvé dans sa tombe le nom de Toui et quelquefois le nom de Mout Toui. Or, Mout veut dire mère. Alors, il se peut qu'ils aient fait un jeu de mots et qu'ils l'aient en même temps appelée la mère Toui et en même temps Toui, si par hasard elle s'appelait Toui, parce que Toui est aussi un nom propre. Ça, c'est un petit mystère que j'ai pas résolu, mais peut-être qu'un confrère trouvera le moyen de se pencher dessus. Voilà pour l'histoire de Ramsès.
Vous retrouverez la semaine prochaine la suite de cette rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, prise de son Frédéric Quéroux, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.